Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage et puis la famille Chabot vous salue. On est chez JP et puis notre petite sœur Hélène est avec nous autres, Marilyn et moi-même pour vous servir, pour ceux qui nous écoutent. Et puis on voudrait vous saluer les gens, tous ceux qui sont sur Internet, soyez bénis, on vous salue chaleureusement, la famille Chabot vous salue. Et nous sommes contents que vous soyez avec nous parce qu'on sait, on voit dans les statistiques qu'il y a des gens, il y a une centaine de personnes qui viennent par semaine. Consulter le site. Est-ce que c'est par jour ou pas? Non, je pense que c'est sur une semaine. Et puis, ben c'est ça. Puis là, ça a tendance à augmenter avec notre nouvel ami qui vient d'arriver, qui a dû amener avec nous, M. Cournoyer. Donc, faut être conscient. Par exemple, les gens qui écoutent que M. Cournoyer et moi-même, c'est deux choses différentes. M. Cournoyer a ses partages, puis moi, j'ai mes partages. C'est juste qu'on a unifié les choses pour la gloire du Seigneur. Dans le fond, c'est ce qui est important, c'est pas les noms des partages, c'est la gloire de Jésus-Christ à travers tout ça. Et qui fait quoi, c'est pas vraiment important. Et puis, si vous voulez, on va commencer par remettre ça en prière au Seigneur. Ben merci Seigneur du privilège qu'on puisse être en famille encore ce soir pour étudier ta parole. Merci pour cette étude qu'on fait sur la restauration divine, sur les livres de Esdras et Néhémie. Et puis Seigneur, on veut te réclamer cette promesse que tu as dit là où vous serez deux ou trois assemblés à mon nom, vous serez parmi eux. Et puis Seigneur, ce soir, on réclame ta présence parmi nous pour nous enseigner, pour ouvrir nos cœurs, pour nous montrer les pépites que tu as cachées dans ta parole, Seigneur. Et puis vraiment, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous révéler à travers ta parole pour nous enseigner, pour qu'on devienne le sel et la lumière pour la gloire de Jésus-Christ à travers nos vies, Seigneur. Amen. Et puis le dernier partage, on avait vu, est-ce que j'ai cliqué? Oui, regardez, j'ai cliqué sur enregistrer. Ça arrive d'une fois que je l'oublie. Et puis dans le dernier partage, on avait vu la révision du chapitre 1 d'Esdras, qui est sur les 11 versets. On avait vu, en gros, on avait fait une réflexion sur ce qu'on avait vu ensemble. Et puis on avait vu, premièrement, l'étendue de la souveraineté de Dieu. Après ça, on avait vu la sécurité de la souveraineté de Dieu. Après ça, on a vu le scandale de la souveraineté de Dieu. Et puis l'étendue, on a vu que Dieu pouvait utiliser qui il voulait, quand il voulait. Même d'un inconverti. Qui était Cyrus, hein? Il a utilisé Cyrus. Et puis Cyrus, il a jamais confessé que c'était son Dieu. Souvenez, on avait vu ça ensemble, le rouleau de Cyrus, là. On avait vu ça, que lui, là, il a jamais confessé que le Dieu d'Israël, c'était son Dieu. C'était le Dieu d'Israël. Puis lui, pour lui, c'était les dieux. Fait que vous voyez que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quand. Et puis que Dieu est en contrôle de toute chose. On avait eu, premièrement, cet élément-là. Deuxièmement, on avait vu la sécurité dans la souveraineté de Dieu. C'est sûr que je vous fais ça rapidement, là, mais on avait vu des versets comme Romains 8, 28 qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, on voit encore que Dieu est souverain et puis qu'on peut se reposer dans son plan. Quand on voit comment c'est grand ce qu'il a fait, comment il a utilisé tout ce qu'il y avait autour de ces gens-là pour accomplir ses promesses qu'il avait faites. Parce que c'est lui fidèle. Le Seigneur est fidèle. Les autres, on le font, mais lui est fidèle. Et puis, il finit toujours par accomplir ce qu'il avait dit qu'il accomplirait. Amen. Et puis, on avait vu Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Et puis, après ça, on avait vu le scandale de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le scandale de la souveraineté de Dieu? On avait vu que, d'un coup, il arrive des choses dans nos vies qu'on a de la difficulté à s'expliquer. On dit, il est où Dieu là-dedans? T'sais? Parce que souvent, on est trop proche des événements. On voit pas la fin d'une chose. Dieu voit la fin d'une chose. Lui, il voit beaucoup plus loin que nous autres. Fait que nous autres, sur le coup, on peut pas ne pas comprendre une situation. Mais lui, il sait qu'il y a quelque chose au bout de ça. Et puis la sagesse, c'est de voir la fin d'une chose. Hein. Fait qu'on avait vu que le scandale de la souveraineté de Dieu, tu sais, ce qu'on avait mentionné, entre autres, c'est que même dans la Bible, il y avait beaucoup de gens qui ont crié à Dieu, comme dans Habacuc 1, verset 2 et 3, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu ne m'écoutes pas, j'ai crié vers toi et la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Il t'entend dire, pourquoi tu fais rien, Seigneur? Hein? C'est pas, il y a plusieurs personnes dans l'Évangile, puis on pourrait, pas dans l'Évangile, mais dans les Écritures, dans les Évangiles aussi, mais je veux parler en général, parce que là, on est dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans le psaume messianique. Le psaume 22, c'est un psaume messianique, hein? Vous savez, c'est qui? Le psaume 22, c'était Jésus-Christ qui parlait. Il dit, mon Dieu, j'écris de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, il n'y a point de repos en moi. Et toi, tu es le saint, tu habites au milieu. Et puis, dans psaume 22, 1, il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis dans Matthieu aussi, dans Marc 15, 34, il a dit ça sur la croix. Imaginez-vous que c'est même Jésus-Christ, il a dit ça, pour nous autres, on va le dire aussi. Puis que le Seigneur, il veut pas quand on a une attitude de, je sens dedans, mais je dis que tout va bien. Il veut qu'on répande notre cœur. Quand on a quelque chose, il veut qu'on lui crie, qu'on lui dise. Il veut qu'on répande notre cœur devant lui. Il veut pas qu'on fasse semblant. Puis rien. Fait qu'il veut qu'on lui remette toute chose. Et puis oui, on va avoir à vivre ces choses-là parce que le Fils les a vécues avant nous autres. Et puis nous autres, on va en vivre. Mais faut savoir que le plan de Dieu est parfait, comme il dit en psaume 18-31. Et puis que tout concourt à notre bien. Que même s'il arrive des choses qui sont difficiles dans nos vies, le Seigneur, il va mettre une poignée après ça. Il va finir, il va faire quelque chose de bien avec. Parce qu'il est souverain. Amen? Puis, ouais, on avait vu, entre autres, que ça faisait partie de, comme dans Romains 8, 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ce qu'on est en train, nous autres, de souffrir, c'est les douleurs de l'enfantement des fils de Dieu et des filles de Dieu. Jusqu'à temps que tous les fils et les filles soient revenus à Dieu. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça que Paul dit ici. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Fait qu'il dit que c'est normal qu'on ait ces choses-là à vivre, mais que le plan de Dieu est parfait pour chacune de nos vies. Il dit après ça dans les Romains 8, 38, 39 qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc, en gros, c'était la révision, mais vous pouvez aller en plus en profondeur en téléchargeant le partage, si vous voulez. Et puis aujourd'hui, on continue. Marilyn est crampée, c'est une bonne humeur, je suis content. C'était de bonne humeur. Tu peux-tu rire avec toi? Non? Quoi? T'en reviens pas de ta grand-père, ton grand-père, ta grand-mère? Ouais.
Non, mais
je t'ai
dit.
Ouais. Ça fait qu'aujourd'hui, on continue les partages sur la restauration divine. Hein? Et puis, ceux qui sont pas assis, ici, je vais les amener, puis peut-être qu'un dimanche, on pourra faire ça, mais en tout cas, on en parlera. On en parlera un autre tantôt. On checkera. Aujourd'hui, on continue dans la restauration divine. Et puis, aujourd'hui, on va voir le chapitre 2. Le chapitre 2 d'Esdras et Néhémie. Et puis, quand on regarde, le titre, ce serait une liste de trésors. Le titre du partage, c'est ceux qui sont retournés à Jérusalem. Mais je pourrais commencer en vous disant qu'il y a dans cette liste-là, il y a une liste de trésors cachés. Et puis, quand on commence à lire Esdras 2, on aurait le goût de sauter le chapitre. Parce que c'est une liste de noms. Quand tu commences à lire ça, puis tu portes pas attention. Mais on va l'analyser, cette liste de noms-là, ce soir. Nous autres, on va aller un peu plus loin dans la liste de noms. On va voir qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans. Puis qu'est-ce que ça peut nous enseigner. Et puis, on va voir que ce passage-là contient des trésors cachés. Il soulève des questions qui doivent être considérées par nous, les chrétiens. Et par la communauté chrétienne aussi. Puis, premier thème, on va voir l'introduction à la liste des personnes, on va voir la conclusion de la liste, on va faire une réflexion sur ce chapitre-là. T'sais. L'introduction à la liste. Alors, les deux premiers versets, chapitre 2, versets 1 et 2. Les versets nous introduisent à la liste des noms. Ils expliquent que ceux qui figurent dans la liste sont ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone. Le verset 2 mentionne les dirigeants de Juda, comme Zorobabel. Souvenez, on a parlé la semaine passée, ou le premier, que Zorobabel était le gouverneur de Juda. Mais qui s'appelait pas comme ça. Hein, il avait perdu son identité. Et puis Josué aussi qui avait été désigné comme le souverain sacrificateur et puis de l'époque. On voit ça dans Esdras 5:2 si vous voulez aller voir les confirmations de ces gens-là, c'est dans Esdras 5:2 et dans Zacharie 3:1. Et puis le Néhémie qui est nommé là, c'est pas le même Néhémie. Moi je me posais la question, puis j'ai eu la réponse. Mais le Néhémie, il nomme Néhémie là dans Esdras dans cette liste-là, mais c'est pas le même Néhémie qui a écrit qu'on parle dans le livre de Néhémie. C'est un qui s'appelait Néhémie là, mais c'est pas le même. Curieusement, la liste d'Esdras 2 avec son avant-propos semble presque identique que celle dans Néhémie. Dans Néhémie 7, versets 6 à 72. Les quelques différences reflètent probablement la lourdeur du système de numérotation hébreu. C'était très compliqué les affaires, là. Les chiffres, c'était très compliqué en hébreu. Donc, la numérotation. Le passage dans Néhémie 7 fournit de plus amples renseignements sur l'origine de la liste, par contre. Dans Néhémie 7:5, ça dit « Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y écris ce qui suivit. » Ce qui suit, puis après ça, il commence la liste. Ça se ressemble comme liste, mais c'est pas tout à fait pareil. Néhémie est un petit peu plus exhaustif, excusez-moi, dans sa liste. Le rédacteur, celui qui a écrit Esdras et Néhémie, il a reproduit cet enregistrement-là généalogique. Au début de sa composition, la liste comprend supposément ceux qui étaient venus dans la première déclaration. Elle ne liste pas toutes les personnes individuellement, elle liste des groupes de personnes. Donc, elle liste pas tout le monde, elle liste juste des groupes de personnes. Nous ne savons pas exactement pourquoi la liste a été initialement élaborée et qui en est l'auteur. Donc, c'est mentionné là, mais on ne sait pas c'est qui l'a fait, cette liste-là. Qui l'a créé, qui l'a fait, et puis comment elle a été faite. Donc, on va analyser la liste. On va voir la liste des personnes du verset 3 à 63. Cette liste indique des groupes de personnes dans les catégories suivantes. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas marqué. Quand vous allez le lire, c'est pas indiqué. Mais c'est indiqué, mais on le voit plus clairement ici, en regardant ça ensemble. Dans les versets 3 à 20, il s'agit des gens du peuple. Donc, les gens du peuple en fonction de leur descendance. C'est important. Du verset 21 à 35, il s'agit des gens du peuple en fonction de la ville où ils habitaient. C'est intéressant. Du verset 36 à 39, ça parle des sacrificateurs en fonction de leur descendance. Le verset 40, ça parle des Lévites en fonction de leur descendance. Verset 41, ça parle des chantres en fonction de leur descendance. Le verset 42, ça parle les gardiens des portes, en fonction encore des descendances, la descendance. Et de 43 à 58, ça parlait des serviteurs, les Néthiniens et les serviteurs de Salomon, conformément à leur descendance. Les versets 59 à 63, les personnes qui ne pouvaient pas prouver leur descendance. Les Néthiniens apparaissent dans les versets 43 à 54. Le mot en hébreu signifie « ceux qui sont donnés ». Il est l'abréviation d'une phrase plus longue qui est « ceux qui sont donnés au service du sanctuaire ou du temple ». Esdras précise plus loin leur rôle précis et leur origine. Dans le chapitre 8, verset 20, il dit « et d'entre les Néthiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites ». Donc, comme les Lévites ont assisté les sacrificateurs, vous savez ça? Les Néthiniens y assistaient les Lévites. Intéressant. Il avait été mis au service. Donc, les Lévites ont assisté les sacrificateurs. Ça, on peut voir ça en Nombre, chapitre 3, 5 à 13. Vous allez voir l'origine de ça. Et puis, les Néthiniens ont aidé les Lévites. De nombreuses versions anglaises traduisent le mot hébreu Néthinim comme servant du temple. Exemple, la version Tob. La structure de cette liste fait apparaître des valeurs fondamentales de la communauté juive de l'époque. Tout d'abord, elle montre le rôle central du temple. Les sacrificateurs, les lévites, d'autres qui ont travaillé dans le temple vont recevoir une mention spéciale. Donc, il y a une mention spéciale pour les autres ils disent c'est les gens du peuple. Donc, ceux qui travaillaient au temple, il y avait une mention spéciale. C'est très important pour eux. Deuxièmement, la liste montre l'importance du lieu de naissance de l'individu dans leur culture. Il y en a qui n'étaient pas capables de prouver leur descendance, mais parce qu'ils vivaient à une telle place, ils ont été acceptés. Intéressant. Donc, un groupe important de personnes sont connues par leur ville d'origine plutôt que par leur famille d'origine. On voit ça dans les versets 21 à 35. Troisièmement, la liste montre combien Israël attribue de l'importance à la descendance. Comment c'était important pour eux autres. Ceux qui pouvaient prouver leur racine généalogique appartenaient à la communauté. Ils avaient une place dans la restauration de la nation. Ce n'est pas le cas de ceux qui ne pouvaient pas identifier leurs antécédents familiaux. Les versets 59 et 60 font spécifiquement appel à ceux qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Donc, le texte ne dit pas ce qu'il est devenu de ces personnes. Il n'en parle pas. Elles ont sans doute été considérées comme des étrangers. Et puis, on va revenir là-dessus. Ça va être un peu le centre du message. La situation est pire encore pour les sacrificateurs. Imaginez-vous, il y avait des sacrificateurs qui ne pouvaient pas prouver leur origine. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour prouver leur origine. Ils étaient sacrificateurs. La situation était pire encore pour les sacrificateurs qui ne pouvaient prouver leur origine. On les exclut du sacerdoce. Comme souillés. Comme s'ils étaient souillés. Et puis au verset 62, bien plus, le gouverneur leur dit qu'ils ne devraient pas manger des choses très saintes jusqu'à ce que le souverain sacrificateur ait consulté l'urim et le thummim. La plupart des choses saintes qu'il y avait dans le temple s'étaient sacrifiées. C'était les parties des sacrifices par le peuple que les sacrificateurs étaient autorisés à manger comme nourriture. Ce qu'ils sacrifiaient, c'était les sacrificateurs qui mangeaient. Là, ils ont dit, parce que tu n'es pas capable de prouver ton origine, premièrement, tu es exclu du sacerdoce. Deuxièmement, tu n'as plus le droit de manger. Tu n'as plus le droit de manger ce qu'il y a dans le temple. Malheureusement, ces sacrificateurs ont été non seulement exclus du sacerdoce, mais aussi de leurs moyens de soutien. L'urim et le thummim mentionnés ici font partie de l'appareil sacerdotal qui permet au souverain sacrificateur de déterminer la volonté de Dieu. Donc, quand il s'arrivait à ces choses-là, il y avait eux autres, il y avait une façon de consulter Dieu sur une telle chose. Et puis, c'était la façon qu'il faisait pour avoir la confirmation de Dieu. Et puis, on voit ça, si vous voulez, l'historique de ça. Les versets sont marqués dans Nombre 27-21, dans 1 Samuel 28-6. Par conséquent, les pères sacrificateurs ont été exclus jusqu'à ce que le souverain sacrificateur puisse faire une vérification définitive de leur sort. Cette pratique peut sembler à première vue exclusive. Oui, c'est assez exclusif, hein? Dans le sens d'avoir un clan fermé, hein? En outre, ça ressemble à de la purification ethnique. Déjà vu dans des pays comme la Bosnie, hein? Ça, on a déjà vu ça. Par contre, en ce qui concerne Israël, nous devons nous rappeler que dans l'alliance de Dieu faite avec Abraham, on y retrouve la bénédiction de ses descendants. Le fait d'intercaler des familles juives puis des familles païennes ont toujours conduit Israël dans de graves difficultés. Ça les a toujours amenés dans des situations très pénibles. Invariablement, chaque fois qu'ils ont fait des compromis, le caractère sacré de leur descendance, la descendance du peuple de Dieu, a été compromis par le fait même. Cela a affecté la sainteté dans leur relation avec Dieu. Dans cette optique, nous pouvons comprendre pourquoi les gens qui cherchent à être rétablis avec Dieu veulent être ethniquement purs. Ça fait quand même 70 ans qu'ils sont en exil. Ça fait 70 ans qu'ils ont été exilés. Fait qu'imaginez-vous, quand ils se remettent en règle avec Dieu, là, c'est vraiment, ils se remettent en règle, c'est le cas de le dire, en règle à la lettre. Et puis là, on voit la différence d'être sous la loi et d'être sous la grâce. Hein? On a développé un peu là-dessus. L'exclusion des sacrificateurs comme souillés semble particulièrement dure. Mais là encore, nous devons nous rappeler que le sacerdoce était héréditaire. Seuls les descendants d'Aaron ont été mandatés de servir comme sacrificateurs. Si les sacrificateurs ne pouvaient pas démontrer leur situation familiale, ils pourraient très bien être des imposteurs dans la maison de Dieu. Hein? Ils pouvaient être des imposteurs s'ils n'étaient pas capables de démontrer s'ils étaient de la famille d'Aaron. Fait qu'ils ne prenaient pas de chance. Hein? Ils voulaient se remettre en règle avec Dieu. Sans aucun doute, les personnes qui ont subi des années d'exil seraient particulièrement sensibles à tout ce qui pourrait mettre en péril leur restauration. Prenons l'exemple d'un couple qui veut se marier. et qui demande à un supposé pasteur, un ministre de culte ou un prêtre s'il peut les marier. Puis là, le prêtre répond, « Bien sûr, je peux vous marier, mais j'ai perdu mes papiers de mon ordination. Je les ai pas, mes papiers. Donc, je peux pas prouver que j'ai une licence, mais je vous le dis, je peux vous marier. Moi, je peux vous marier. Il n'y a pas de problème. Je suis en règle. Alors, il ne devrait pas avoir de problème. » Le curé dit, « Hein, d'accord, mais qui de nous autres irait voir un notaire, quelque chose d'important, qui s'assurerait pas que c'est un vrai notaire? » Et puis, se marier, c'est la même chose. Si tu pars pour te marier, assure-toi que la personne qui va te marier, elle a le mandat pour le faire. Hein? Si on a juste à se comparer à nous quand on a besoin d'un avocat ou d'un notaire, ou comme il dit ici, toute personne qui a besoin d'un ministre juridique serait certainement allée voir ailleurs. Ou c'est que c'était certain qu'il y avait que la personne avait les compétences et était mandatée pour le faire. De la même façon, à ce moment stratégique de la restauration, Israël a fait le nécessaire pour que les sacrificateurs de Dieu soient conformes à la parole, de sorte que les sacrificateurs douteux ont été exclus temporairement, du moins jusqu'à ce que le souverain sacrificateur ait consulté le règne du mal. La conclusion de la liste est versets 64-70. Le montant total de 42 360 qui est indiqué dans Esdras, vous pouvez aller le lire, apparaît également dans Néhémie 7-66. Malheureusement, il ne concorde pas avec les chiffres de la liste d'Esdras, 29 818, et de Néhémie, 31 089 personnes. Bien que les commentateurs aient proposé de nombreuses solutions à ce dilemme, les différences sont probablement reliées au système complexe de numérotation des Hébreux, avec des erreurs possibles de retranscription. Mais les deux totales sont les mêmes, 42 360. Une autre chose qui a pu arriver, c'est qu'il se peut également que les femmes ont été excluses dans le total. Parce qu'ils comptaient juste les hommes. Ils comptaient pas les enfants et les femmes. Donc, bon, c'est vraiment important. On sait que le peuple, c'était 42 360. Ils sont venus là. Le nombre exact des autres, je pense qu'on doit pas s'arrêter à ça. Les versets 68-69 mentionnent spécialement l'effort pour la reconstruction. Le peuple a donné librement en fonction de leur capacité, ils ont aussi donné généreusement comme le grand total des offrandes volontaires en témoigne. C'est indiqué là, dans les versets. Puis le chapitre se termine avec la réinstallation de ceux qui sont venus de Babylone dans leur village, leur ville de Juda. Donc, on va faire une petite réflexion maintenant sur ce qu'on vient de voir là. Ce qui avait là juste l'air d'une liste, tu sais, qu'on aurait pu sauter par-dessus, on voit qu'il y a des informations là-dedans. Peut nous porter à réfléchir. La liste d'Esdras 2 montre qui ont été approuvés de la communauté et qui n'ont pas été dans le projet de la restauration de la nation. Nous avons ici ceux qui étaient inclus et ceux qui étaient exclus. Nous voulons tous être pris en considération, appartenir à un groupe. Quand nous sommes exclus, nous sommes souvent confrontés à une sorte de haine. Et puis, qu'est-ce qu'on connaît ce sentiment-là? Est-ce qu'on a déjà expérimenté d'être exclu d'un groupe? Et est-ce qu'on s'est déjà senti comme la cinquième roue? Ou un chien dans un jus de quille? Connaissez-vous cette expression-là? Je me suis senti comme un chien dans un jus de quille. Avez-vous déjà été victime d'un préjudice en raison de votre race, de votre sexe ou de vos croyances? Si vous avez déjà expérimenté l'exclusion, vous serez particulièrement sensible à celle des Juifs dans notre histoire qui ne pouvaient pas prouver leur descendance. Les autres, ils ont été exclus. Ferions-nous la même chose face à cette forme d'exclusion, en particulier celles qui sont fondées sur la race ou le privilège de la famille? Est-ce qu'on agirait pareil comme les Juifs? Ça arriverait aujourd'hui. Dans la discussion ci-dessous, nous avons tenté d'expliquer les raisons politiques d'exclusion en Israël. On n'a pas tenté de les excuser, on les a expliqués. Pourquoi ils ont fait ça? Maintenant, on va développer un peu là-dessus. Il est triste de constater que la qualité même de quelques personnes à l'intérieur d'Israël, de par leur descendance, ont conduit à l'exclusion d'autres personnes. Est-ce que ces personnes étaient meilleures à cause du fait qu'ils étaient capables de prouver leur descendance par rapport aux autres? Est-ce que ça en faisait des personnes meilleures? Non. Avant de pointer du doigt, par contre, Israël, nous devons examiner nos propres moyens. Hein, c'est facile de dire, nous autres, là, est-ce qu'on est mieux qu'eux autres? Et puis, ça va être ça notre questionnement ce soir. Serait-il possible que la catégorie dans laquelle nous nous sentons réellement inclus nous conduise à exclure d'autres personnes? Ça se pourrait-tu? En tant que chrétiens, nous affirmons que notre appartenance au corps de Christ repose simplement sur la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? C'est ce qu'on dit. Est-ce que nous acceptons également notre appel pour attirer des étrangers à Christ? Hein? On veut amener des gens au Seigneur, on veut lui parler du Seigneur. En les accueillant dans nos rassemblements. Mais nos attitudes et nos actions souvent en contradiction avec ces convictions théologiques. Nos attitudes et nos actions souvent sont souvent en contradiction avec ces convictions théologiques. Essayons de développer. Une église, ça s'intitule une église pleine de gens comme moi. Il y a quelque chose de merveilleux dans le fait d'être dans un groupe appartenant à la même église. Hein? On a tous expérimenté ça, la communion, c'est la communion fraternelle, les agapés, les témoignages, et qu'on est béni pareil. Hein? On partage les mêmes valeurs, on parle la même langue, on sent inclus parce que nous partageons une même sous-culture. On a toute la même affaire. T'sais. On a du bon temps ensemble. On a tout expérimenté ça. On voit dans Galates 3, versets 26 à 28. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Mais juste vous rappeler, parce qu'on avait mentionné dans un des derniers partages, je suis en train de perdre mon micro, excusez, que c'était la religion qui avait cloué Jésus-Christ à la croix. Hein? Vous avez tous parlé de ça. On est tous d'accord avec ça. C'est qui a cloué Jésus-Christ? Alors, qui a demandé ce que Jésus-Christ soit crucifié? C'est les gens qui étaient, c'est les pharisiens. C'était ceux qui étaient religieux. Et puis, les gens religieux, ce que je veux attirer votre attention, c'est que c'est eux qui ont cloué Jésus-Christ à la croix. Et la religion, c'est à l'imposé de Jésus-Christ. Tout ce que les gens qui ont gardé, puis ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir dans la liste d'Esdras, c'était des principes religieux qui ont été appliqués. Lui, il peut, lui, il peut pas. Les règlements, les règles, les normes. Mais c'est les règlements, les règles, les normes qui ont attaché Jésus-Christ à la croix. La même chose. Souvenez? Ils ont tous allé voir dans les lois, tu sais. Ils ont dit non, non, non. Fait que c'est la même chose. C'est la religion qui a cloué Jésus-Christ à la croix. Donc, quand je dis la religion, je dis ce qui remplace la relation avec Dieu. Il y a des gens qui vont utiliser des systèmes, des lois pour remplacer la relation personnelle que Dieu veut avec nous. C'est pas des lois. C'est pas un règlement que t'appliques l'Église de Jésus-Christ. Ça se vit avec le cœur, c'est l'amour. Pas des règlements qui disent « toi tu peux, toi tu peux pas ». C'est là-dessus qu'on va élaborer la soirée. C'est pour ça que on se remet à question. Avez-vous déjà remarqué que nous, chrétiens, nous avons une façon de parler entre nous? Nous utilisons des mots ou des phrases qui ont un sens pour nous en tant que groupe unique. Connaître et utiliser ces bouts de phrases nous aide à nous sentir inclus dans notre groupe, comme le plan de Dieu est parfait. Que Dieu te bénisse. Hein? Gloire à Dieu! Nous pouvons marcher dans l'Église, dans tous les pays, puis tu vas demander à la personne, êtes-vous né de nouveau? La personne a dit oui, ah là, c'est gloire à Dieu, puis c'est la grosse poignée de main, puis c'est, ah wow, là, c'est vraiment, tout le monde est béni. Mais tu sais, le gars qui est pas, qui vient pour la première fois à l'Église, hein, lui, il voit ça, est-ce qu'il se sent inclus? C'est la question qu'on se pose ce soir. Nous pouvons, on aura des dizaines d'exemples, hein, des choses qu'on fait dans l'Église qui se fait pas dans le monde. Qui fait que quand on invite quelqu'un, à parmi nous, c'est qu'il a l'impression qu'il est pas dans ce gang-là, lui. Tu sais? Si on amène un non-chrétien parmi un groupe de chrétiens, lui, il a pas moins d'idées de tout ce qu'on parle. Il n'en a aucune idée. Quelqu'un peut dire, je me sens vraiment béni parce que le Seigneur m'a parlé cette semaine dans mon temps, j'ai passé du temps dans la parole, j'ai été béni. Le gars, là, que t'as amené, qui est pas sauvé, lui, il s'en poche au bout parce que Dieu, il parle pas. Dans sa tête, lui, Dieu, il parle pas. Puis lui, il expérimente pas ça. Fait que lui, là, qu'est-ce qu'il pense quand il entend ça? Il dit, moi, je suis pas de ce gang-là pendant tout. Pas assez bon pour être eux autres. Moi, Dieu me parle pas. Faut faire attention. Quand on est avec des non-chrétiens, c'est ce qu'on va dire. Quand on est ensemble, on est tous ensemble, c'est une affaire. Mais pourquoi qu'on changerait nos façons de parler? Puis nos façons d'agir? On est en train de faire ce que les autres ont fait. Hein? Et puis, c'est juste ça que je veux amener comme réflexion ensemble ce soir. Je veux pas qu'on soit dans la condamnation, je veux juste nous faire réaliser quelque chose. Lui, il va se dire, moi, il y a personne qui me parle comme ça, je peux pas, je suis pas comme eux autres. Quelle tristesse pour ceux qui ont besoin de connaître le Seigneur, qui peuvent se laisser décourager par nos paroles et nos manières exclusives. Nous, on le fait, pas toi. Dans notre façon de prier, est-ce que nous avons un protocole quant à la façon de prier? Est-ce qu'on a un protocole en façon de faire? Si un nouveau est assis avec nous pendant qu'on est en prière, il se sent-tu à part? Est-ce qu'il se sent libre de prier puis de dire ce qu'il veut au Seigneur? C'est important ça aussi. Il est également temps que nous devenions sensibles à la façon que notre langage tend à exclure les femmes. Hein? Nous nous trouvons confortables en se référant en tant que fils de Dieu. Hein? Parce qu'on vient de le voir dans Galates 3. Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais, ou frères en Christ, hein, on entend souvent ces expressions-là. Parce que nous sommes habitués à une culture qui utilise un nom masculin pour se référer à des hommes ou des femmes. Mais de nombreux segments aujourd'hui, là, c'est pas tout le monde qui va accepter ça quand tu parles comme ça. Pourquoi qu'on dit pas qu'on est des enfants de Dieu? Pourquoi qu'on dit qu'on est des fils de Dieu? On est des fils et des filles. On est des enfants de Dieu. Hein? Je pense qu'on devrait faire attention à ça. Parfois, les chrétiens doivent exclure, là, l'auteur nous sensibilisait qu'il avait arrivé quelquefois qu'il va falloir exclure quelqu'un. Parce que la parole nous dit. Parce que les chrétiens doivent exclure un frère ou une sœur de la fraternité. L'enseignement dans les Écritures, c'est Matthieu 18, 15, 17. Et 1 Corinthiens 5, 1 à 5, là, c'était, entre autres, si vous vous rappelez pas, c'est Jésus qui dit, si ton frère a péché, il va reprendre. S'il se repent pas, vas-y, deux ou trois. Après ça, amène-le devant l'assemblée. Et s'il se repent pas, ben, il dit, expulse-le. Mais, ça vient, quand on entend ça, ça vient en contradiction avec notre gentillesse chrétienne. Tu sais? Ça, quelque part, ça vient, mais le Seigneur, il dit, c'est pour protéger le corps qu'on fait ça. L'autre, dans 1 Corinthiens 5, 1 à 5, c'était l'homme qui avait la femme de son père. Vous vous souvenez de cet exemple-là? Paul, il dit, on voit même pas ça dans le monde. Il y a quelqu'un parmi vous qui a la femme de son père. Fait que c'était... Puis là, Paul avait été fort parce qu'il dit qu'avec qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mais ça vient souvent à l'encontre de notre éducation de chrétien, de gentillesse chrétienne, mais il y a quand même des règles dans la maison de Dieu. T'sais? Et puis il faut qu'elles soient appliquées. Quand un chrétien continue de pécher sans repentance, il ne reçoit pas d'être repris. Tu vas le reprendre, puis il ne reçoit pas ça. Ben, l'Église a des raisons de l'exclure pour un temps. Pas de l'exclure totalement, l'exclure pour un temps. Jésus nous rappelle à l'égard de ces personnes de les traiter comme des païens puis des publicains. Dans le verset, c'est ça qui est marqué. Dans le verset Matthieu 18, 17. Il dit, traitez-les comme des païens et des publicains. Comment Jésus a traité les païens et les publicains? Souvenez-vous? Il allait s'asseoir avec eux autres, manger avec eux autres. Il est venu pour les ramener, hein? Il dit, traite-les comme je traite quelqu'un qui est non-croyant. Mais il dit, n'aie plus peur avec lui, de peur que tu tombes toi aussi. Mais il dit, traite-les comme un non-croyant, comme si tu voulais le ramener, pas pour l'exclure. Il dit, rejette-les pas. On se comprend. Mais Christ est mort pour eux autres aussi, et on espère les ramener au Seigneur, les ramener au Seigneur. Le pouvoir que Jésus-Christ a confié à son Église, c'est une puissance qui se manifeste dans l'exercice de la discipline ecclésiastique. Oh, c'est grand mot, ça. Elle est pour construire et édifier le corps de Christ. pas pour le détruire. Hein? La discipline que Jésus a mise, ça doit être la dernière chose que ça doit faire. Ça doit être de détruire. Ça ne doit pas détruire. Ce n'est pas pour détruire, c'est pour échanger, c'est pour instruire, c'est pour corriger. C'est pas pour punir. C'est pas utilisé pour punir. Il doit être exercé comme une manifestation de la miséricorde. Hein? Ça doit être manifesté dans la miséricorde, comme nous, on a reçu la miséricorde. Et non pas un débordement de colère. De sorte que le but à atteindre pour l'Église est que tous les enfants de Dieu puissent être présentés sans faute au jour de Christ. C'est ça le but de l'Église. Amen. Considérant que ceux qui sont exclus d'Israël, faute de descendance, ont été exclus de la vie communautaire. Supposons, nous autres, pour mettre ça dans notre contexte, là. Supposons qu'on retirait le salut à un chrétien. Ça ressemble à ça, là. Ce que je viens de dire, là, c'est que tu dis, bon, ben toi, t'es plus sauvé parce que t'es dans le péché. Et puis tant que tu seras pas réconcilié avec Dieu et avec la communauté par une confession de foi devant l'Assemblée, ben, t'es plus sauvé. Ben, c'est ce qui est arrivé avec Israël. Les gens qui ont été exclus de l'Assemblée, c'est ce qui est arrivé, ils ont été exclus du peuple. C'est grave. Ici, là, c'est comme dire à un chrétien, t'es plus sauvé. C'est pareil. Puis là, après ça, ben, tu reviennes, là, on va consulter le rim puis le timon. Pensons à ça. Ça, c'était des pratiques religieuses. Et puis nous, faut pas tomber dans le panneau parce que Christ est venu accomplir la loi. Maintenant, c'est la loi de Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres. » Comme Israël a empêché certains des leurs d'entrer dans leur ministère de sacrificateurs et de lévites, nous pouvons aussi empêcher certaines personnes d'exercer leurs fonctions ministérielles. Ça s'est vu, ça. Bien que tous les chrétiens sont appelés au ministère, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés au ministère de leadership. Comme l'ont fait les sacrificateurs de l'époque, nous devons nous en remettre à Dieu pour toutes les questions qui concernent sa maison. Donc, Dieu est souverain, on l'a vu, hein? Il est souverain, et puis n'importe quand, quand on a des litiges comme ça, la dernière chose sur laquelle on doit se baser, c'est nos règlements, nos lois, nos perceptions. On doit aller en prière, puis on doit demander à Dieu qui nous dirige dans la situation. Oui, il y a un temps d'exclure quelqu'un de l'Assemblée, ou peut-être... Et peut-être aussi exclu de son ministère. Lorsque nous prenons cette décision difficile, nous devons le faire avec l'espoir de rédemption et de réconciliation. Pas pour manifester sa supériorité hiérarchique ou pour assouvir sa soif de pouvoir. Ça doit être fait toujours dans le but de reprendre sa position par appel. Rédemption, réconciliation. Ça doit toujours être ça le but. Nous nous souvenons que Dieu invite les pécheurs et appelle tous les chrétiens à la maturité. Et au service. Et puis, c'était le partage de ce soir. C'était sur les choses que je voulais qu'on réfléchisse, que le Seigneur nous a amené, c'est-à-dire à réfléchir. Et puis, je termine en disant, Seigneur, apprends-nous à avoir du discernement dans les situations, à avoir ton cœur. Et puis, à ne pas être religieux, parce que les religieux, les gens qui sont religieux, qui sont basés sur la religion, c'est le Seigneur, il dit, hein, Paul, il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, c'est le contraire. Être religieux, j'ai perdu mon... 1, 2. Bon. Je suis revenu, là? Ouais. J'avais perdu mon son. Donc, excusez. C'est ça. Fait que je disais qu'on avait terminé et puis on va remettre ça en prière, si vous voulez bien. Après ça, on va faire un appel, si vous voulez. On va prier ensemble. Merci, Seigneur, pour ce partage aujourd'hui d'une liste qui avait l'air de rien, d'un chapitre qu'on était porté à ne pas aller ou à sauter, parce que c'était des choses qui semblaient à nos yeux, avec nos yeux naturels, des choses qui étaient monotones. On a vu qu'il y avait un message incroyable en arrière de ça, dans lequel on peut apprendre à ne pas être religieux, mais d'avoir ton cœur dans les situations. Et puis, Seigneur, ce soir, on te demande de faire ça dans nos cœurs, de faire de nous des gens qui ne sont pas axés, basés sur des règlements ou des lois, mais qui ont la loi de Christ dans leur cœur et qui appliquent la pensée de Christ dans les gens, pour que tu puisses, Seigneur, vivre à travers nous, qu'on puisse mourir, que tu puisses vivre à travers nous et qu'on puisse être le sel et la lumière, Seigneur, dans les situations. Et puis, on te demande de faire ça dans nos cœurs, Seigneur, pour ta gloire. Et puis, ce soir, si tu as entendu ce partage, et puis que tu aimerais avoir cette relation avec le Père, Ben, la Bible dit que c'est impossible à l'homme, qu'il n'y a rien que tu peux faire dans ta vie d'homme, par des œuvres d'homme, qui peut faire que tu vas être sauvé. Par contre, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et puis c'est Jésus-Christ qui l'a dit lui-même. Et puis on voit que Dieu, premièrement, tu dois reconnaître que tu peux pas te sauver par toi-même, que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Deuxièmement, tu dois recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle, c'est-à-dire que dans Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1,12, ça dit, à celui qui l'a cru et qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors, on voit que Dieu veut te faire un cadeau, mais c'est comme si toi, tu voudrais faire un cadeau à un ami. Et puis ton ami dit, j'en veux pas. Ça n'a pas besoin. Dieu, c'est un gentleman. Il a offert son fils pour toi, mais tu dois accepter le cadeau. Tu dois l'accepter et puis te l'approprier, ce cadeau-là. Et puis Dieu regarde à ton cœur. Dans Proverbe 23, ça dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et puis si tu fais, on va te diriger tout à l'heure dans une prière. Et puis si tu fais cette prière, sincèrement avec ton cœur, que tu reconnais que tu es pécheur, que tu peux pas te sauver par toi-même, et que tu acceptes ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, et que tu lui demandes, et que tu places ta confiance en Jésus-Christ seulement pour la vie éternelle, ça dit, et bien, la Bible dit qu'aujourd'hui même, tu vas recevoir ce cadeau de la vie éternelle, et puis on peut t'en témoigner tout le monde ici, parce qu'on l'a tout reçu, nous. On a fait cette expérience-là incroyable, et puis Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Donc, on va te diriger dans une prière, et puis on va te demander si tu veux vraiment de faire cette prière dans ton cœur comme si tu parlais à ton Père. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux te prier pour les gens qui ont pu faire cette prière à la maison, pour que tu les sauves, que tu touches leur cœur puissamment, Seigneur, maintenant, de ton amour, qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Envoie-leur des ouvriers, Seigneur, qu'ils deviennent tes disciples et qu'ils deviennent le sel et la lumière pour la gloire de ton nom, Jésus compris. Amen. Merci beaucoup.